9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Karima Chadibaou est avec nous, bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Coach familial, parental, formatrice au sein de l'Institut Européen d'Études et de Recherche sur les Thérapies Holistiques. Et nous allons parler aujourd'hui des ados, la vie avec un ado, quelle aventure finalement.
Quelle grande aventure. Être vraiment un parent d'ado, c'est pas simple, mais c'est aussi... Une belle aventure.
Ouais, peut-être que les ados nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes.
Hein. Oui, absolument, absolument. Et puis surtout, nous aident à nous renouer aussi avec l'ado qu'on a été. Et surtout aussi, en tant que parent, aider cet adolescent à devenir un adulte. Comment l'accompagner pour qu'il puisse vraiment exprimer tout son potentiel et faire vivre les valeurs qu'on lui a transmises. Et aussi devenir cet adulte responsable, équilibré, épanoui. Mais c'est pas simple parce qu'on traverse cette période d'adolescence avec, enfin, c'est une tempête, hein, en fait, en quelque sorte.
Oui. Mais il faut quand même le dire, la plupart des ados passent le cap tranquille, hein.
Oui. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Heureusement d'ailleurs. Et c'est ce que je dis souvent aux parents. Même s'il leur arrive, on parle tout le temps de crise de l'adolescence. Quand on parle de crise, alors j'aime bien cette traduction du mot crise, par exemple en chinois. On a différentes manières de le dire.
Oui, alors dites-le en chinois, s'il vous plaît.
Non, ça je peux pas le dire.
Je pense que ça va nous éclairer sur le sujet.
En chinois, je pourrais pas le dire, mais que le sens en fait du mot crise veut dire aussi opportunité. C'est-à-dire une chance de faire grandir cet enfant qui est en train de passer à l'âge adulte et donc l'adolescence qui se fera plus ou moins dans de bonnes et meilleures conditions, à condition bien sûr d'écouter ce qu'a à nous dire ce jeune en fait.
Ça c'est la base.
Ça c'est la base.
L'écouter.
L'écouter ce qu'il dit, écouter aussi ses émotions parce que c'est la période de la tempête hormonale où tout change, le corps change, c'est la période de la puberté. Maintenant dans toutes les études qu'on peut lire, on parle maintenant aussi de préadolescence où l'adolescence arrive de plus en plus tôt.
De plus en plus tôt,
des jeunes filles, des jeunes garçons qui sont pubères très tôt, très jeunes. Et puis, j'ai envie de dire, le cerveau ne suit pas toujours. Quand je dis ne suit pas toujours, c'est-à-dire au niveau de la maturité.
Ouais, vous avez des enveloppes de jeunes filles avec des cerveaux d'enfants.
Exactement, d'enfants, de jeunes filles adolescentes qui sont pubères, qui ont eu leurs règles, qui ont un corps qui est formé et tout ça, et qui, dans leur tête, sont encore des petites filles. Et c'est pas très simple.
Alors, à l'adolescence, certains parents réalisent que l'influence qu'ils pensaient exercer sur leurs enfants n'existe pas.
Oui.
Et que là, les enfants n'écoutent plus. Alors, c'est quoi cette question d'influence? Il y a un moment où les enfants écoutent et puis un moment où ils n'écoutent plus subitement?
Alors, c'est pas que les enfants n'écoutent plus. C'est qu'en fait, à cette période-là, l'influence des parents est toujours aussi importante. Simplement, elle va être remise en cause. Comment est-ce qu'elle va être remise en cause? Toutes les frontières, toutes les limites que le parent a posées, durant, donc on va dire, de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. 9 ans, la préadolescence commence un peu à 9 ans. À 9 ans, où il va remettre un petit peu en cause, discuter et négocier. On parle beaucoup de la négociation à cette période-là, qu'il ne faut pas confondre avec le marchandage ou le chantage.
C'est quoi la différence?
La différence, le marchandage, c'est un peu ce qui va être un peu le chantage. C'est-à-dire que si tu fais ça, je vais te payer, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, à condition que tu fasses ce que je te demande. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à avoir cette mainmise, entre guillemets, sur cet adolescent. Pourquoi? Parce que ce jeune est en train d'exprimer un petit peu qui il est. Il est en train d'exprimer une certaine liberté, une indépendance et une volonté d'autonomie. L'autonomie commence déjà à l'âge de 18 mois, hein, même un peu avant, où cet enfant, il veut manger tout seul, il veut s'habiller tout seul, cette autonomie est toujours là. Et il la développe de plus en plus. C'est surtout par rapport aussi aux idées, par rapport aux valeurs, par rapport... Et le parent, il se sent un peu comme si on l'a spolié de quelque chose, comme si on lui a enlevé ce pouvoir qu'il a en fait sur son enfant.
Mais alors, ce marchandage dont vous parlez, ça fonctionne ou ça fonctionne
non,
pas?
Non, ça fonctionne
C'est-à-dire
pas.
Que, bon, voilà, si tu fais ça, t'auras tes chaussures. Ouais.
Ça fonctionne
sur le. Si tu fais ça, t'auras ta console, ton téléphone.
Ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de donnant-donnant. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on est en train de transmettre en termes de valeurs? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à cet enfant? Parce que c'est de la manipulation. Enfin, pour moi, c'est mon point de vue, Philippe. Hein, pour moi, c'est de la manipulation. Parce que comme on n'arrive pas à soumettre l'enfant, lui faire voir le bien qu'il y a à l'intérieur de telle ou telle action ou de tel ou tel investissement qu'il va avoir, qu'est-ce qu'il va faire ? il va comprendre que tout peut s'acheter, qu'à condition d'avoir sa super paire de baskets ou sa console de jeu ou son téléphone dernier cri.
Tout s'achète.
Non, pas tout s'achète, non. Non, pour moi, ne s'achète pas.
Pour la dernière paire de Nike, ça marche hein,
Oui.
à changement de vitesse.
Oui, mais bon, moi, je ne suis pas pour... Je pense et je réfléchis en termes de valeurs. Qu'est-ce qu'on est en train de transmettre quoi, à cet enfant? Et c'est à l'adolescence hein, que les valeurs se vivent. Ce qu'on a transmis juste avant, et quand il arrive à cet âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, où il va confronter en fait les valeurs que vous lui aurez transmises.
Donc c'est pas l'influence des parents qui diminue contrairement à ce qu'ils pensent.
Non, du tout.
Hein, c'est une confrontation.
Une confrontation avec les adultes, toutes les personnes significatives autour de cette. Quand je dis significative, c'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose qui s'occupe de cet enfant, qui donne du soin et qui transmettent quelque chose. Donc il va remettre un petit peu en question cet adolescent, tout ce qu'on lui a transmis, tout ce qu'on lui a dit. Pour confronter. D'ailleurs, c'est à cet âge-là qu'on voit, quand on parle des lycéens qui se mobilisent, les jeunes qui se mobilisent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un idéal. Les causes. Moi, je me rappelle quand j'étais en Corse, quand j'étais lycéenne. Moi, j'étais dans toutes les associations lycéennes je connaissais
Corse,
pas trop la cause.
C'est encore autre chose. Hein.
Voilà, oui. Mais dire que c'est un moment en fait où il y a une espèce de réveil, une espèce de sursaut. Alors, je veux dire en arabe peut-être que le mot, une espèce de hamas. Le hamas, c'est-à-dire une envie, une pulsion comme ça de vouloir, de dire attends, il y a une injustice ici, on va aller se battre contre cette injustice. Mais même s'il voit pas tout ce qui peut se passer, tous les tenants.
Mais
les...
c'est vrai que la lutte contre les injustices, elle est importante.
Elle est hyper importante. On va se mobiliser pour l'environnement, sur l'écologie. Moi, je regarde la jeune fille. Il y a eu à un moment donné une jeune fille, je crois qu'elle est suédoise ou danoise, je sais plus, enfin nordique, qui s'est engagée, qui a écrit des choses. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Et on voit, elle, c'est une lycéenne. Elle vient et elle le rappelle aux adultes, aux grands, aussi aux grands, les tenants du pouvoir, dire, bah, attendez, notre environnement, quelle planète vous êtes en train de nous léguer? Et ça, c'est des jeunes qui le font. Moi, je le vois avec mes enfants aussi, qui me disent, oui, mais maman, mais ça, c'est pas juste. Et moi, je lui dis, oui, c'est pas juste. C'est vrai que c'est pas juste. Mais ne reste pas au fait que ce ne soit pas juste. Va au-delà, parce qu'il y a beaucoup d'intrications, il y a beaucoup de choses que tu ne vois peut-être pas. Et c'est ça que le jeune, en fait, ne supporte pas aussi. Parce que nous, en tant que parents, en tant qu'adultes, on est un peu dans la toute-puissance de dire, attends, moi, je suis en position haute, je vois tout ce qui se passe.
Je sais.
Ouais. Toi, tu ne sais pas encore de quelle expérience tu parles au-dessus de tes 12 ans, de tes 14 ans ou de tes 15, 16, 17 ans. Quoi. Voilà.
Les ados, il faut y penser, sont des experts en communication.
Oui.
En quoi est-ce que la communication avec des adolescents est particulière?
C'est l'âge. Alors, ils arrivent à communiquer. Alors, je vais mettre un petit bémol quand même, parce que parfois, moi, je vois des ados que j'accompagne qui ont du mal, en fait, à exprimer ce qui se passe en eux, mais qui ont quand même un bon décryptage, en fait, du monde, on va dire, du monde ou même de la famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne voyaient pas. Comme ils remettent en cause, par exemple, dans la cellule familiale, c'est ces ados-là qui vont remettre en question certains non-dits, par exemple, ou qui vont carrément les soulever, les révéler. Dans certaines familles, dire attendez, pourquoi ? Parce qu'ils sont guidés par certaines valeurs, les valeurs que les parents ont transmises, les valeurs que l'école aussi a transmises, d'accord ? Et donc ils vont se porter comme des espèces de sauveurs un petit peu et de dire non, mais là moi je vais rétablir quelque chose, moi je sais que je peux apporter quelque chose. Donc c'est en ça qu'ils sont des communicants, d'accord ? Mais savoir ce qui se passe en eux, dans cette intelligence, on va dire intrapersonnelle, ça par contre ils ont un peu du mal. Pourquoi ? Parce qu'il se passe des choses dans leur tête, dans leur cerveau, c'est un peu le brouillard cérébral, et parce qu'en même temps, il se passe aussi des choses dans leur corps. Donc nous, en tant que parents, il y a besoin d'apporter une espèce d'alignement entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps.
Parfois, à la maison, ils sont quand même un peu ronchons, et dès qu'ils sortent de la maison, qu'ils sont avec leurs potes, ils sont beaucoup moins ronchons, Karima.
Oui, ils sont beaucoup moins ronchons, parce que, pourquoi ? Parce qu'ils se sentent reconnus avec leur père. Leur père PAIRS, hein. C'est-à-dire les jeunes du même âge, ils sont engagés. D'ailleurs, on les voit, on dirait ils sont tous habillés de la même manière, ils sont coiffés de la même manière, ils portent tous les mêmes choses, d'accord. Et puis nous, les parents, on est un peu has-been, on est un peu oh là là, ça y est, même s'il n'y a pas beaucoup de différence avec vos enfants et que vous êtes un parent qui se tient à la page et qui reste très, très en lien avec ce que vit son adolescent, ben, on est quand même traité comme des arriérés. Et à la maison, il peut être ranchon, il est anticonformiste, il est en opposition totale, il reste cloîtré dans sa chambre, il ne fait plus vivre certaines valeurs familiales. C'est pour ça que le parent doit tenir, dans cette période-là, tenir sur le cadre. Être cadre, être comment je vais dire ça, être exigeant sur le cadre, d'accord, mais flexible dans la relation. Et ça, c'est pas simple, c'est une gymnastique. C'est-à-dire que sur le cadre, il y a les limites, les frontières, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Il y a ce qui est négociable. Et on parle, voilà,
on
la différence
la
avec,
fameuse,
le,
oui,
avec à la négociation, ce qui est négociable et ce qui est non négociable. Et ça, faut être clair avec son adolescent. Par exemple, quand il veut sortir le soir, parce que c'est l'âge où il veut sortir avec ses potes, il veut aller à des soirées, où il veut aller en voyage, en week-end, des choses comme ça. Donc, maintenant, c'est par rapport, le parent doit déjà être clair lui-même avec ses valeurs et avec ses règles. Et ces règles doivent être co-créées et co-construites avec l'adolescent. Pourquoi ? Parce que ça va l'aider lui aussi à prendre responsabilité dans ces règles et pour pouvoir aussi les respecter. Parce que si on arrive, nous, en tant que parents très autoritaires et on impose la loi et on dit voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, bah, de toute façon, l'ado, il va essayer
Tant que tu seras sous mon toit, c'est ma loi qui s'appliquera, donc tu fais comme je te dis.
Tu fais comme je te dis, et puis tu fermes ta bouche. Hein. Moi, j'en vois beaucoup de parents qui disent ouais, tant que tu es sous mon toit, je te nourris, je te loge, c'est moi qui t'abuse.
Sauf que l'ado répond à ça, oui, mais tout le monde l'a.
Oui.
Tout le monde l'a, tout le monde le fait. Donc comment on...
Bah parce que là, le parent doit rester connecté à quoi ? Aux besoins de reconnaissance et aux besoins d'appartenance. Cet ado, il est en train de développer ça. De dire oui, j'entends bien que tes camarades, tes copains, tes potes, ils ont ça, ils l'ont. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, comment toi tu peux... Et elle est là, c'est là où s'ouvre la négociation. Comment toi... Parce que les paires de baskets, c'est des trucs hors de prix. Les téléphones, c'est pareil. Et puis, on est dans cette génération-là de tout, du multimédia, moi, je vois Enfin, moi, j'arrive même pas déjà à l'avoir. Hein. À moi qui travaille, qui a le dernier téléphone iPhone, la XR, je sais pas quoi. Bon, je vais pas faire de pub là-dessus. Mais...
À le diesel.
Voilà, ouais. Oui, ouais, voilà. Et d'avoir des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que ça leur donne, ça les rassure sur qui ils sont. C'est une manière, en fait, au niveau matériel, de rassurer. Puisque j'ai la même chose que mes copains, ben, ça veut dire que je fais partie du clan. Ça veut dire que je suis avec eux. Et le parent, ben, elle est là, la gymnastique. Hein, c'est difficile. Hein, parce qu'il faut lui dire, est-ce que tu te détermines ou tu te définis par rapport à ce que tu as ou par rapport à ce que tu es ou à qui tu es. Et il est là, le travail.
Ça parle à des ados, ça ?
Ben oui, bien sûr que ça parle à des ados. Moi, je le pratique avec les miens, je le pratique avec les ados. C'est pas simple. C'est clair que c'est pas simple, Philippe. Hein. C'est très compliqué, il faut tenir. Mais voilà, de le faire. Et bien sûr, on va pas lui donner, par exemple, le téléphone ou même pour pas le. Parce que lui, l'ado peut le vivre aussi comme une humiliation.
Comme une privation.
Privation, humiliation. Pourquoi j'y ai pas droit ? Dans ce cas-là, ça va être l'occasion de le faire travailler sur la responsabilité. Tu veux un téléphone à ce prix-là ? Ok. Tu es prêt à quoi pour ça ?
Mais là, on en revient au marchandage.
Non, ça, c'est pas un marchandage. Ça, c'est une négociation. Tu es prêt à quoi ? Eh ben, tu vas faire des travaux, tu vas faire des choses sur lesquelles tu vas être rémunéré, Et là, je vous assure qu'ils deviennent hyper créatifs. Et ils trouvent. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se donner les moyens de se dire, ben, si je veux quelque chose, je vais travailler pour l'avoir. Là, on est en train de transmettre quelque chose et pas l'argent facile. Tu l'as, ben, je demande juste à papa ou à maman. Moi, je me souviens, vous savez, quand j'ai commencé à pratiquer en tant que thérapeute, j'avais reçu, je me souviens, une dame avec son. Alors, c'est pour moi, il faisait une crise d'adolescence tardive, 21 ans. La maman lui avait installé le garage, machin, tati, tata. Il voulait le dernier écran plasma. Je sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, un grand écran et tout. Elle lui a dit mais non. Et elle m'en parlait, elle me dit je sais pas quoi faire. Elle m'a dit maintenant il m'a menacé, il m'a dit je te préviens maman, la petite vieille qui passe dans la rue, ils habitaient un quartier un peu voilà, et il me dit pavillonnaire, il me dit la petite vieille qui passe dans la rue, je l'agresse et je lui arrache son sac si tu me l'achètes pas. La maman elle s'est imaginée, elle s'est projetée dans ce que risquait de faire, donc ça c'est simplement une menace hein, que fait le gamin. Il sait comment fonctionne sa maman. Hein.
Pas oublier, c'est manipulateur. Ils sont experts en communication.
Eh ben exactement parce qu'ils savent manipuler. Et la maman elle était tellement dans la terreur que son enfant puisse faire ça, 21 ans quand même, presque 22, et eh ben, là, elle a lui acheté le dernier écran pour qu'il puisse s'amuser, jouer. Mmh. Et voilà, j'ai dit non. J'ai dit, mais,
comment vous auriez géré ça, vous, Karima?
Mais on l'a géré.
Mais comment vous avez fait?
Comment on a fait? Je lui ai dit, donc à la maman, je lui ai dit, surtout ne cédez pas, faut tenir. Parce que je lui ai dit, quel est le risque pour vous? Si votre enfant fait ça, c'est quoi le risque? Elle me dit, derrière ça, il y avait la peur inconsciente que son enfant ne l'aime pas. Ou qu'elle croit que son enfant ne fait pas, qu'elle ne fait pas les choses qu'il faut pour son enfant. Donc, pour elle, c'était, je dois préserver mon enfant de la délinquance, qu'il devienne un voyou. Donc, je lui donne ce qu'il me demande. Je lui dis, mais déjà, en faisant ça, il est voyou avec vous, déjà.
Ouais.
J'ai dit, laissez-le. J'ai dit, laissez-le et on va voir est-ce qu'il va assumer. Moi, je suis pour cette technique-là, un peu la technique un peu paradoxale. D'accord? C'est, vas-y, montre-moi comment tu vas faire. Comment tu vas t'y prendre avec la vieille dame? Comment tu vas lui arracher son sac et comment tu vas t'y prendre? Ensuite, tu subis les conséquences de ton acte. Moi, c'est comme ça qu'on l'a géré. Il a dit, ouais, non, mais en fait, moi, je disais ça comme ça, et tout. J'ai dit, mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Elle me dit, oui, mais de toute façon, elle cède à chaque fois. Donc ça veut dire quoi?
Si elle a cédé une fois, c'est qu'elle cédera une deuxième
fois. Elle cède tout le temps.
Ouais.
Et donc les enfants le testent déjà quand ils sont tout petits. Vous savez, moi, il y a le sketch de Gad Elmaleh qui me fait très rire quand il parle de l'enfant quand il pleure et qu'il est là, il regarde à quelle distance se trouve le parent, il se met à hurler, puis il fait des espèces de variations comme ça. Pourquoi? Pour attirer l'attention. Mais ce jeune-là de 21 ans, c'était quoi? C'était pour attirer l'attention de sa mère, de dire arrête de faire tout ce que je te... Pose-moi une limite. Pose-moi une limite, parce que les limites, c'est ce qui nous fait grandir. Mmh. C'est cette bonne frustration.
Qu'est-ce qui fonctionne en termes de communication avec les adolescents? On en parle ce matin. Je rappelle que vous posez vos questions à Karima Shadibaou au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Qu'est-ce qui fonctionne en termes de communication avec ces ados? On en parle aujourd'hui avec Karima Shadibaou, qui est avec nous, coach familial et parental, et formatrice au sein de l'Institut Européen d'Études et de Recherche sur les Thérapies Holistiques, l'IERTH, Karima. Oui. On prendra des appels dans un instant au 01 53 48 3000, mais c'est vrai que l'adolescence, c'est une période où finalement on a les désirs des parents qui peuvent arriver et être en contradiction avec ceux de leurs enfants.
Oui, absolument. Et donc, le challenge dans cette histoire, on va dire ça comme ça, c'est qu'il va falloir aligner, essayer de faire vivre, de faire coexister, en fait, et les désirs du parent, les besoins du parent, et les besoins de cet adolescent qui a ce besoin, en fait, c'est, moi, je les dispatche en fait en 7 besoins capitaux chez l'adolescent plutôt. Donc le besoin de sécurité, de rester toujours bien ancré dans sa famille et d'avoir le soutien nécessaire pour pouvoir se développer. Les besoins de confiance, c'est-à-dire qu'on lui fasse confiance et que lui aussi fasse confiance. Parce que c'est aussi la période où, comme on l'a dit tout à l'heure, où il remet en cause un petit peu toutes les valeurs. Pas pour les rejeter, d'accord ? Ou les règles, pas pour les rejeter, mais simplement pour apporter un peu plus de flexibilité. Et le parent ne doit pas prendre ça contre lui. Ensuite, il a des besoins de dialogue, on l'a dit, de communication, d'échange, et surtout pas, même si on voit que notre enfant, notre ado rentre dans une espèce de mutisme, où il n'a plus trop envie de parler, où tout le saoule, il le dit, hein, de toute façon, ça me saoule. Oui, d'accord, ça te saoule, j'entends bien. Donc, plus parler à son cœur qu'à sa tête. Ça veut dire quoi? Ne pas rentrer dans des discussions, dans des dialogues stériles qui ne mènent à rien, où il va y avoir plutôt une opposition ou un rapport de force. Ça sert à rien et c'est stérile. Plutôt parler à son cœur, lui dire oui, c'est je comprends ton point de vue, c'est ta manière de voir les choses, c'est comme ça que tu te l'expliques, ok, c'est comme ça que tu le ressens et que tu le vis. Simplement être dans une reformulation et une écoute bienveillante. D'accord? C'est pas toujours évident parce que c'est la période. Alors, beaucoup de parents parlent de cet âge-là, surtout l'âge 12-13 ans, comme étant l'âge bête. Il comprend rien. Oui, mais vous imaginez tout ce qui se passe dans
son
cerveau.
Il me cherche.
Oui, il me cherche, oui. C'est un fameux bouquin de Madame Filioza, où à cette période-là, il se passe des choses dans son cerveau. C'est le brouillard cérébral, il y a la matière grise qui se développe, matière blanche aussi au niveau des synapses. Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il se passe des choses dans sa tête à ce moment-là. D'accord ? Donc, nous, on ne va pas prendre ça pour argent comptant et dire tout de suite, il me cherche, il est en train de m'embêter, c'est contre moi. Non, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Il s'agit de lui, c'est-à-dire qu'il est en train de se développer et de devenir en fait un adulte. Ensuite, il y a les besoins aussi d'autonomie. C'est la période où il va demander Avant, t'as des devoirs, tu vas faire tes devoirs. Oui, mais je vais les faire tout à l'heure. Oui, mais quand tout à l'heure? Oui, bah tout à l'heure. Et puis on le voit, il les fait au dernier moment. D'accord? Donc là-dessus, il va falloir établir un contrat avec lui. D'accord? Qui dit contrat, ça veut dire qu'on assume aussi les conséquences de ce contrat. Si on s'y prend mal et on s'est mal organisé, par exemple, dans son travail, et que le parent ne se retrouve pas, lui, à faire le travail. Et moi, je vois beaucoup ça, beaucoup de parents faire ça. Hein, parce qu'ils ont peur de ce que va dire l'enseignant, de ce que va dire, oh là là, je suis un mauvais parent, je m'occupe pas de mon ado. Et donc, du coup, non, le laisser aussi subir les conséquences, ça fait partie de la vie, ça fait partie de grandir, de devenir adulte. Un ado qui ne subit pas les conséquences de ses actes, ben, il n'apprend pas à grandir. Il n'apprend pas à grandir, il sait que papa... Et puis, du coup, il va aller crescendo dans les bêtises, à faire tout et n'importe quoi, d'accord ? Et le parent sera toujours là en train de réparer. Et puis, il va se plaindre et qu'il va dire « Ouais, mais moi, je comprends pas, il veut pas grandir, il veut pas... » Oui, mais laisse-le grandir. Il y a bêtise. Alors, je dis souvent aux parents, il y a bêtise et bêtise. Maintenant, bien sûr, les très, très grosses bêtises, on va être là, on est le premier avocat de son enfant quand même. Mais les petites bêtises, laissez-le subir les conséquences. Parce qu'en subissant les conséquences, et quand vous l'accompagnez, vous allez réussir à le faire sortir, l'enseignement. De qu'est-ce que tu as appris de ça ? Par exemple, hier, moi, j'étais en atelier au centre social Astin, et on a beaucoup parlé de l'adolescence. Et des mamans qui disaient, oui, mais tu rends pas compte, Karima, tu nous dis qu'il faut le laisser subir les conséquences. Je lui dis, oui. Je lui dis, si tu ne le laisses pas, que tu es toujours en train, toi, là, de réparer, et en même temps, tu te plains qu'il ne prend pas de responsabilité, je lui dis, à quel moment il va grandir ? Jusqu'au jour où il fait la plus grosse bêtise. Je lui dis, toi, tu poses les règles, tu donnes les règles, tu donnes le contrat. Ensuite, tu t'éloignes et tu le laisses et tu le regardes et tu observes. D'accord ? Mais tu accompagnes, tu es là à côté, tu es pas dans le contrôle. Ce n'est pas une marionnette que tu vas manipuler, hein ? C'est pas ça. C'est laisse-le grandir, lâche un peu la bride, lâche-la un petit peu, mais tu la tiens toujours pour dire que la relation est là. Je suis là, quoi qu'il arrive, je te soutiens et je t'accompagne. C'est difficile de grandir, c'est difficile de devenir un adulte. Pourquoi ? Parce qu'il y a les joies de la liberté, de l'autonomie, mais il y a aussi la responsabilité à côté. D'accord ? Donc pour devenir responsable...
Donc c'est assumer les conséquences de ses actes.
Absolument, absolument. Donc il y a, j'ai pas fini de donner les besoins de responsabilité, on a dit, et besoin aussi d'espoir. Un ado, quand il est en train de grandir, il rêve de voyager, de faire plein de choses. Nous, en tant que parents, ne doit surtout pas supprimer l'espoir. Surtout pas. Et qui rêve de devenir, par exemple, je me souviens il y a 15 jours, on avait un peu parlé des enfants qui ont des talents, qui rêvent de devenir le futur Zidane ou le futur Ronaldo ou le futur. On a beaucoup parlé de foot, mais moi on peut parler d'autres choses, d'autres talents aussi bien artistiques que intellectuels, d'accord. Mais de laisser en fait cet enfant, même si on voit qu'il peine un petit peu, ne supprimez pas l'espoir. Ne le supprimez pas, accompagnez-le, parce que derrière ça, il y a la légende personnelle, je sais que vous allez aimer ce que je vais dire là, il y a la légende personnelle qui va s'exprimer derrière, c'est-à-dire que cet enfant va trouver le but et un sens à sa vie. D'accord ? Mais s'il ne l'exprime pas à travers des rêves et un espoir, et que le parent est en train de lui supprimer, t'es nul en maths, tu seras jamais un ingénieur en aéronautique. Non, qu'est-ce qu'on en sait ? On sait rien du tout. Laissez-le rêver, cet enfant. Laissez-le rêver. Le monde est déjà assez cruel et assez difficile pour, si on puisse, on prive, on enlève le rêve, là, c'est plus possible.
Et n'imposez pas les vôtres.
Et non, on n'impose pas les nôtres, bien sûr. De tout ce que nous, en tant que parents, on n'a pas pu réaliser, on va se projeter sur l'enfant et dire, ah ben voilà, toi, tu feras ça parce que moi, j'ai pas pu. Ou donner de. Moi, je vois beaucoup de parents qui inscrivent leur enfant dans beaucoup d'activités parce qu'eux n'ont pas eu la chance d'avoir, de pouvoir participer ou faire telle et telle et telle activité et qui disent, l'enfant, lui, il a rien demandé, hein. D'accord.
La confiance. Alors, effectivement, c'est important de faire confiance à son enfant, mais s'il fait effectivement des bêtises, est-ce que ça entache le contrat de confiance ?
Non, alors, maintenant, quand on dit bêtise, de quoi est-ce qu'on parle ? De quelle bêtise est-ce qu'on parle ? Et cette confiance, elle doit se travailler, c'est comme un muscle. Elle doit se travailler. Si je travaille pas ce muscle, je peux dire, c'est pas la confiance, elle arrive pas avec une incantation comme ça, hein, en disant je te fais confiance. Ou alors, moi j'entends beaucoup les parents, notamment hier, qui me disaient, oui, moi j'ai confiance en mon enfant, mais j'ai pas confiance en les autres. Donc la confiance sociale, la confiance en les autres. Ah oui, on sait jamais quand ils sortent le soir, s'ils le poussent à boire ou à fumer ou à faire quelque chose. Oui, mais dans ce cas-là, ça vient toucher la confiance que vous avez en votre enfant. Ça veut dire quoi ? Que vous n'avez pas confiance en ce que vous avez transmis à votre enfant. Si vous ne lui montrez pas, vous ne l'accompagnez pas dans Comment est-ce que tu choisis tes amis? Qu'est-ce qui va t'attirer chez telle ou telle personne? Par exemple, moi je le vois, des jeunes filles, des mamans qui me ramènent leur fille et qui me disent, voilà, elle s'est amourachée d'un voyou, je comprends pas. On est une famille de pratiquants, on est une famille de ceci, voilà les valeurs islamiques qu'on a transmises, tatitata, et elle est amoureuse du dealer du quartier. Je dis, ok, d'accord, à votre avis, qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire, votre fille? Qu'est-ce qu'elle est en train de vous dire?
Bah, qu'est-ce qu'elle est en train de leur dire?
Qu'est-ce qu'elle est en train de leur dire? De leur dire, attendez, déverrouillez un petit peu. Là, je suis peut-être un peu trop serrée, un peu trop verrouillée. Ça y est, sa vie, elle est déjà tracée. Ma fille, tu porteras le hijab, tu seras comme si, tu vas te marier avec celui-là, tu seras une bonne femme au foie. Enfin, là, je caricature un petit peu, hein, quand même. C'est juste, je force un peu, juste pour qu'on puisse comprendre, d'accord? Mais souvent, ces jeunes filles, quand elles cherchent, elles ont soif de rébellion un petit peu, de se dire, attends, j'aimerais bien moi sortir un peu des clous et de connaître un peu la liberté de ce que c'est. Sachant que les filles, surtout quand elles sont cadrées dans ce... Et c'est pas très sain, elles sont en quête et en recherche d'un mâle dominant. Quelqu'un qui va venir, il va dire, le prince charmant, le fameux prince charmant qui va venir, alors bon, c'est un petit voyou là, mais c'est pas grave, mais qui va venir la sortir de son petit train-train ou de ses obligations ou de ses espèces de responsabilités.
D'accord, donc là, une fois qu'effectivement il y a une sortie de clou, comment vous faites pour dialoguer?
Alors, comment on fait pour dialoguer? Déjà, d'être dans l'acceptation inconditionnelle.
Même si vous êtes hors de vous, tu vas voir ce que tu vas prendre.
Moi je le dis aux parents, je dis, allez-y, vous voulez ce que tu vas prendre, tabasser là, séquestrer là, vous allez faire quoi? Vous allez avoir un résultat? Est-ce que vous allez avoir un résultat? Non. Ça va peut-être vous soulager, vous, en tant que parent, dire, oh là là, ça m'a fait du bien, je lui en ai collé une, d'accord, sur le coup. Mais après, je vous dis pas toute la culpabilité derrière.
Donc comment on gère message. Finalement ce genre de situation,
ce genre de situation, on va chercher qu'est-ce qu'est en train de nous dire cet enfant, cet adolescent à travers ce comportement. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous exprimer? C'est la soif de quoi? Et moi je dis aux parents, faut que vous ayez confiance dans ce que vous transmettez à votre enfant. Si déjà vous doutez, vous lui transmettez, ou vous avez peur, vous transmettez votre peur. Elle est à vous, cette peur, c'est pas la sienne. D'accord? Donc de dire, ok, qu'est-ce qui t'a plu chez ce garçon? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as vu chez ce garçon? D'accord? Pour pouvoir en tirer, dire, ok, donc ce qui t'a plu, cette espèce de liberté, d'autonomie, de faire ce qu'il veut, d'être libre, d'être, je sais pas. Et puis il y a ce goût du borderline, un petit peu d'état limite, où on va flirter avec les frontières de la loi et les frontières. Ça va donner un peu de sensations fortes. Ok, ces sensations fortes, on va peut-être aussi les trouver d'une autre manière.
D'accord, mais c'est possible. Ce qui veut dire que ça interroge les parents sur leurs propres émotions. Je dirais qu'un parent qui est en colère parce qu'effectivement il s'est passé quelque chose, il va peut-être pas lui dire en première intention qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui t'a plu chez ces garçons-là.
Non. Alors la première chose, quand je disais l'acceptation inconditionnelle, d'accord, il y a ça qui s'est passé. Des premières choses, je me contrôle moi. Premièrement.
Donc c'est ça la base.
Ouais. Je vais respirer, je vais me faire de l'auto-hypnose, je vais gérer ce qui se passe en moi. D'accord, ces émotions. Pourquoi? Parce que c'est et écouter le message de ces émotions, de cette colère. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire, cette colère? Que quelque chose est contrarié, que certaines valeurs n'ont pas été respectées. Ok, ça, là, il s'agit de moi. C'est-à-dire que je vais séparer les choses. À qui appartient le problème? Ce problème, c'est le mien. Il m'appartient. C'est moi qui ne vais pas bien avec ça, donc je vais gérer mes émotions. Ensuite, je vais convoquer une discussion. D'accord? Voilà, je suis en colère. J'ai attendu de décolérer. J'ai encore un peu de colère, mais j'ai besoin qu'on parle, qu'on mette des mots sur ce qui s'est passé. Et c'est dans la discussion, dans le dialogue, que la solution va émerger. Que déjà de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête et dans le cœur de cette jeune fille ou de ce jeune garçon. D'accord? Mais c'est parce que si on arrive et qu'on coupe la communication et qu'on impose sa loi, ça mène nulle part. À un moment donné, ça sortira beaucoup plus tard aussi. Hein. Si cet ado qui a grandi serré et on n'a pas communiqué avec lui, ça ressortira plus tard, une fois qu'il aura 25 ans, 26 ans ou 27 ans. Hein. Ou même encore beaucoup plus tard. Maintenant, on parle d'adultescent. D'adolescent ou l'adultescent. Après, ça dépend comment on va le prononcer.
Qui vivent leur adolescence passer 30 ans.
À passer 30 ans, exactement. Parce que justement, il y a certaines choses qu'ils n'ont pas vécues, qui n'ont pas. C'est une étape vraiment importante. Moi, vraiment. Et quand elle est bien accompagnée, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup d'amour, et aussi avec des règles claires des frontières claires et cohérentes, bah, qui se passent très très bien.
01 53 48 3000. Tiens, vous êtes parent d'adolescents et vous avez des difficultés à communiquer avec eux. Vous posez vos questions à Karima Shadibaou ce matin. 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec Karima Shadibaou, donnez les clés de la communication avec vos enfants, parce que c'est, vous disiez en antenne, mais c'est que c'est la base. Finalement, rien ne sert de serrer la vis.
Oui, absolument. Leur donner les clés et leur donner les bons outils. Par exemple, pour le choix des amis. On va lui dire, voilà, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est, qui est vraiment dans une relation d'amitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Plutôt que de lui dire, non, je ne veux pas que tu fréquentes celui-là ou je ne veux pas que tu fréquentes celle-là. Ou, le parent ne donne pas la raison, le pourquoi. D'accord? Donc, lui faire confiance, c'est ça. Et c'est l'excuse de je ne fais pas confiance aux autres. Non, c'est de lui dire, lui faire assez confiance à lui pour que lui puisse bien choisir qui il va fréquenter.
Alors Tavo, c'est avec nous au 01 53 48 3000. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour Karima.
Bonjour madame.
Bonjour, moi je suis maman d'un adolescent de 14 ans et demi. Mm-hmm. Donc il s'est fait agresser derrière moi. Il s'est fait agresser, en fait, il ne parle pas à personne, il ne sort pas. Il faut que je sorte, que je le ramène à l'école, que je le récupère à la sortie du collège. Je ne sais pas quoi faire en fait pour cet adolescent.
D'accord.
Alors, oui, je ne sais pas quoi faire.
Ouais. Donc, 14 ans, il est en troisième, c'est ça?
Il est en troisième, il va passer son brevet cette année aussi.
D'accord. Et l'agression, il y a eu déjà, par rapport à, à cette agression, il y a eu... qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez porté plainte? Vous avez...
Nous, on a porté plainte, mais quand même, on a traversé des périodes difficiles. On est déversé, on a été... On a vécu dans un transfert familial vraiment difficile. Il y a qu'un papa qui était violent.
D'accord.
Ça a ressurgi en fait à l'adolescent.
D'accord.
Il a suivi psychologiquement pendant 2 ans.
D'accord.
Il s'est bien, il s'exprime par la colère, il casse les choses.
Oui.
Qu'il trouve devant lui, il casse.
D'accord. Et donc le suivi psychothérapeutique là, n'a rien donné pendant 2 ans. Il a...
Pendant 2 ans, c'est, en fait, ça, il n'a rien donné. Ouais.
D'accord. Alors peut-être qu'il a ben là c'est clair hein, qu'il va falloir l'accompagner déjà.
14 ans et demi là, hein,
14
c'est ça.
14 ans et demi, ouais. qu'il a été agressé, donc là il y a probablement un traumatisme et qu'il va falloir voilà, donc là il va falloir vraiment l'emmener voir quelqu'un qui pratique les TCC, les thérapies comportementales et cognitives. C'est beaucoup plus efficace et vu qu'il est dans la colère, ça va l'aider à gérer sa colère, à exprimer déjà sa colère et ensuite à apprendre à la gérer et à l'utiliser de la bonne manière. C'est-à-dire cette énergie qu'il la retourne pas contre lui ou contre son entourage, mais qu'il apprenne en fait à en faire quelque chose de bon et de juste. Parce que si vous me dites, c'est son papa, c'est ça qui a été violent.
Avec moi, donc il a subi vraiment. Il a vu tout les choses qui s'est passé au sein de la famille.
D'accord. Donc,
je l'ai suivi pendant 2 ans, c'était calmé sa colère et depuis l'agression, hein, dès qu'il a un contact avec son père, et c'est là, ça dégénère en fait sa colère.
D'accord. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment ce que je peux vous dire, hein, parce que il y a beaucoup de choses à faire, et Dieu merci, c'est pas désespéré que vous avez dit que vous ne savez pas quoi faire. La première des choses que je vous invite à faire, Taos, c'est déjà au moment où il dort. Vous voyez, au moment où il dort, il s'est endormi, vous rentrez dans sa chambre, et vous vérifiez bien qu'il dort. Ça veut dire une heure et demie après l'endormissement, il sera dans la phase du sommeil paradoxal. Ça, c'est la première, ce que vous allez faire. Ensuite, il va falloir trouver quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider, l'emmener voir un spécialiste. Parce que là, vous toute seule, vous ne pourrez pas. Parce que là, on a un multitrauma, et donc complexe, et il va falloir déjà désamorcer les différentes strates, en fait.
Alors, attendez, je n'ai pas compris. Donc, maman va dans sa chambre pendant qu'il dort.
Non, je reviens. Ouais. Pendant qu'il dort, une heure et demie après l'endormissement, vous allez lui parler. D'accord? Vous allez parler dans son sommeil. Parce que là, vous allez le conscient... Le conscient, il sera endormi, mais l'inconscient sera réveillé. D'accord. Vous comprenez quand je dis le conscient et l'inconscient? L'inconscient, c'est celui qui s'occupe de toutes les fonctions vitales. D'accord. La respiration, tout le reste.
Et qu'est-ce qu'elle lui dit?
Et vous allez lui dire. Comment il s'appelle, votre fils?
Il s'appelle François.
François. Vous allez lui dire François. Déjà, vous allez lui déclarer votre amour, que vous l'aimez très fort. que c'est que vous êtes là pour lui, que vous le soutenez et que qu'il est en train de passer des phases difficiles, mais que vous croyez en lui, que vous savez qu'il va réussir. D'accord ? Ça, c'est déjà...
Je lui ai dit, parce qu'il communique beaucoup avec moi, en fait. Il m'a dit, la seule personne que j'ai confiance, c'est toi, maman.
Oui. Bah,
c'est déjà bien, ça.
C'est génial. Ouais. Donc ça, oui, vous allez vous appuyer là-dessus. Mais pour pas justement rentrer dans la polémique, c'est pour ça que je vous le dis, de lui dire ça dans le sommeil, pas quand il est réveillé.
D'accord.
Pourquoi ? Pas quand il est réveillé, le dire dans le sommeil pour que son inconscient capte ça,
oui,
et commence à construire la solution et à gérer cette colère et à gérer le problème. D'accord ? Parce que nous, on dit en thérapie brève, on dit en quoi le problème, c'est la solution à ce qui se passe. En quoi le fait qu'il se mette en colère, c'est le mécanisme de défense qu'il a trouvé pour se protéger contre une souffrance. Se protéger, peut-être, probablement avec ce que vous avez dit, ce qui s'est passé avec son papa, ce qu'il a, il a été témoin de beaucoup de choses. C'est la manière à lui qu'il a trouvé pour se défendre. Maintenant, en lui disant que vous allez y arriver, dans le sommeil, que vous êtes là, que vous le soutenez, vous êtes déjà en train de préparer le terrain. Et bien sûr, vraiment, moi je veux bien vous donner mes coordonnées hors antenne pour qu'on puisse... Voilà, parce qu'on ne va pas le laisser comme ça et on ne va pas vous laisser aussi comme ça. Il y a plein de choses à faire. Vous allez voir, moi j'ai accompagné énormément de gens là-dessus et on a d'excellents résultats, vraiment. D'accord ? Donc déjà...
Je souffre, lui aussi. Pardonnez-moi parce que là vraiment je suis fatiguée.
Oui, je comprends. Et dites-lui ça, dites-lui, vous le lui dites dans le sommeil, hein, pas réveillée, que maman elle est fatiguée, mais elle va tout faire et je vais t'accompagner et on va y arriver, on va réussir et que ce qu'on est en train de passer c'est qu'un moment difficile. D'accord ? Ouais. Que ça va pas rester comme ça tout le temps. D'accord ?
D'accord. Je suis toujours réveillant, toujours quand il parle avec moi, je suis toujours sous discours avec lui.
Oui.
Alors, Taos, vous allez rester en ligne. On va prendre vos coordonnées, d'accord ?
Okay. Merci beaucoup, merci Philippe, merci.
Gros bisous, Taos.
Gros bisous, bon courage.
Merci beaucoup.
Bon courage.
Nous accueillons Rima en région parisienne. Rima, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Rima.
Oui, bonjour. Donc moi, je vous appelle concernant, j'ai deux enfants.
Oui.
Une fille de 19 ans, hein, qui est à la fac, et un garçon de 16 ans. Donc moi, je suis plutôt une maman très très autoritaire. Voilà, comme j'ai entendu tout à l'heure...
Karima qui disait, oui.
Ouais, voilà, qui disait justement, moi c'est comme ça, c'est pas autrement.
Ça négocie pas avec Rima.
Comment ?
Ça négocie pas avec Rima.
Avec moi, non. C'est, malheureusement, j'ai quitté mon appartement, mon fils, il avait 6 mois. Donc j'ai décidé du jour au lendemain de prendre mes enfants par rapport à des violences graves. Hein. Mm-hmm. Donc j'ai décidé de partir et de refaire tout à zéro. Et c'est moi qui gérais tout, toute seule. Je faisais les deux rôles.
Oui, le père et la mère, quoi.
Voilà, mais enfin, ça a marché jusqu'à ce que ma fille, quand elle a eu son bac, j'ai des enfants qui travaillent très très bien, qui m'écoutent. Alhamdoulilah, ils ne font pas de bêtises, sauf que ma fille, elle s'est retournée contre moi.
Ah.
Vous comprenez ?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, retourner contre vous ? C'est quoi ?
C'est-à-dire, maintenant, elle m'a sorti tout ce que j'ai... C'est vrai que j'ai été très, très dure avec elle, mais c'était pour son bien. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, moi, au collège, si vous voulez, quand elle est rentrée au collège, j'ai senti qu'il y avait des changements, donc j'ai tout abandonné. Hein.
Oui.
J'ai arrêté de travailler... J'étais, j'allais l'accompagner, je la récupérais, c'était comme ça. Mm-hmm. Mais elle je sais pas comment je vous ai
Qu'est-ce qu'elle vous a dit Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Rima, voilà. Votre
c'est
fille
quoi,
Qu'est-ce qu'elle vous a reproché
voilà.
Alors, elle me reproche maintenant que j'ai été très très dure avec elle, que je ne l'aime pas, qu'elle se pose des questions même, est-ce que elle est même si c'est ma fille
c'est
ou pas
Oui.
C'est classique ça, Rima, rassurez-vous. Oui.
Ça, c'est classique. Parce que
elle est très brillante, elle est très gentille, elle est sérieuse, sensible. J'ai su pas longtemps qu'elle est très sensible et ça m'embête un petit peu. Je suis très, très. Je suis pas bien parce que je m'en veux un petit peu. Je me dis, j'étais très, très dure et il fallait pas.
Et ça, vous le lui avez dit, Rima ? Que vous avez été dure et que.
Je lui ai dit que c'était pour son bien, parce que j'étais seule, on vit dans un monde de cruel, il y a des...
Oui.
La rue ne pardonne pas, vous comprenez?
Oui, oui, oui.
Je lui ai dit, si moi j'étais pas derrière toi, t'aurais jamais eu peut-être ton bac.
D'accord, donc en fait vous êtes dans la justification avec elle et sur la défensive, j'ai l'impression.
Je pleure tous les jours, oui. Je me dis, elle m'a dit pourquoi tu n'as... Il fallait juste communiquer. Pourquoi tu as été dur comme ça? Pourquoi t'as... Vous comprenez? Et là, ce qui m'inquiète le plus, bon, elle, maintenant, elle m'a dit, je t'en veux pas, maman. Je te pardonne. Je suis reconnaissante envers toi.
Oui.
Et ce que j'ai peur, c'est que j'ai le garçon qui passe son bac et qui va me faire la même chose.
Non. Déjà, si vous partez dans une prédiction qui va se passer la même chose, vous risquez de la réaliser, cette prédiction. D'accord, Rima? Maintenant que votre fille vous dit « oui, je te pardonne » et qu'elle vous dit « je te pardonne » et voilà, mais j'aurais voulu qu'elle est reconnaissante, c'est très bien. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser la question, Rima. Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même?
Moi, je sais par rapport à quoi.
Par rapport à tout ça.
Est-ce que vous avez fait avec, à votre attitude?
À votre attitude, exactement.
Je m'en veux.
En fait, regardez, dans la relation, ce qui se passe, Rima, c'est que vous projetez votre propre culpabilité, en fait, sur votre fille. Mais vous n'aviez pas le choix. À ce moment-là, vous avez fait le meilleur choix qui était possible pour vous dans les conditions dans lesquelles vous étiez. Donc ça, il faut que vous ayez de la bienveillance envers vous-même. Vous le dites, c'était pour notre bien, pour son bien, le bien des enfants. Et la preuve, elle réussit. Maintenant, il va falloir mettre des mots sur ce que vous avez ressenti à cette période-là. Et c'est ça qu'elle vous demande, votre fille. C'est de dire, ne balayez pas comme ça, dire oui, voilà, maintenant je me sens coupable, je me sens pas très bien parce que c'est une décision que j'avais prise à l'époque. Maintenant, on fait avec et on va l'accepter.
Mais est-ce que Rima, elle peut dire à sa fille qu'elle s'en veut?
Oui.
Et qu'elle regrette?
Mais bien sûr, absolument.
Ah, vous lui avez dit, Rima?
Mais Rima,
oui.
Rima.
Oui, je lui ai dit.
Rima, moi, ce que... Je vais être dans le conseil, là. Ce que je vous conseille, c'est ne le faites pas sur la défensive. Oui. L'intention, vraiment, connectez-vous à une intention d'amour. D'accord? Cette intention d'amour, de dire, voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais, avec les outils que j'avais, avec l'état d'esprit que j'avais, avec les blessures que j'avais. Et je pensais à cette époque-là que c'était la meilleure des choses. Voilà, voyez, c'est pas, mais oui, mais moi je l'ai fait pour toi, mais oui, mais nanani, mais nanana. Voyez, l'énergie, c'est pas la même. Ouais, et l'intention, c'est pas la même. Et vous allez voir que votre enfant, vous savez, votre fille, elle vous aime inconditionnellement. Quoi que vous ayez fait, elle vous aime. Et ça, soyez-en sûr.
Vous savez, j'ai trouvé, elle a écrit, je sais pas combien de pages, elle a écrit des choses qui m'ont blessée.
Oui, mais ça, regardez, vous reviendrez plus tard dessus. Prenez-le comme étant une manière de vider son sac. Prenez-le comme ça. Et ne restez pas sur quelque chose de personnel.
Un jour, elle partira, ne reviendra plus jamais. Je ne verrai plus jamais ses enfants.
Mais ça, c'est ce qu'elle a écrit avant de vous dire qu'elle vous a pardonné.
Oui, après, elle a...
Voilà, donc ça, oubliez-le.
Mais c'est une stratégie.
Rima,
parce que
exactement.
C'était pour que vous le lisiez, ça.
Voilà, et pour que vous soyez consciente de ce qui se passe.
Elle sait que je fouille. Donc
c'était une stratégie. Elle voulait que vous le trouviez, son cahier.
Voilà,
Rima.
Absolument.
Bon, donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est que j'ai un garçon.
Alors, attendez, Rima, bougez, restez en ligne un instant. On revient dans un instant, et puis on accueillera également Sabrina, AVS. C'est jusqu'à 10h, ce Beurre FM.
Sur Beurre FM. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon, sur Beurre FM.
Bon, Karima, vous continuez de répondre à Rima, qui nous a parlé de sa fille, mais qui avait des doutes sur son fils, et qui s'interroge, et qui se demande si son fils risque même chose, et de lui reprocher de la même façon.
Rima, déjà, vous dans votre posture, ne vous mettez pas comme si on était en train de faire bis repetita, la même chose, non. Ne faites pas la même chose. Soyez curieuse de découvrir ce qu'il a à vous dire, de ce qu'il a, et vraiment de discuter, d'ouvrir le dialogue. D'accord? C'est important. Et vous allez voir, il ne reproduira pas la même chose. Déjà, vous, dans votre tête, vous enlevez ça. D'accord?
On vous fait un gros bisou,
Rima. Rima. Bon courage.
Sabrina nous rejoint en 01 53 48 3000. Sabrina, bienvenue.
Oui, bonjour Philippe, bonjour madame.
Bonjour Sabrina.
Madame Karima, Sabrina.
Non, Karima.
Bonjour madame Karima. Voilà, donc j'ai un adolescent de 18 ans qui est atteint d'un trouble du déficit de l'attention avec une hyperactivité.
Donc un TDAH, d'accord.
Oui, TDAH, et qui a été détecté à l'âge de 9 ans. Qui a été suivi par trois différents pédopsies suivi de traitement. Il a une scolarité plus ou moins avec une scolarité assez convenable jusqu'à jusqu'en troisième. Je l'élève toute seule. J'ai dû le mettre en internat à l'âge de 9 ans.
Alors quelle est votre question, Sabrina, parce qu'on va être pris par le temps, hein.
Alors, ma question, c'est que mon fils, depuis qu'il est rentré sur Paris, il a des mauvaises fréquentations et il a complètement changé.
Et il a quel âge aujourd'hui, Sabrina?
Il a 18 ans.
D'accord.
Il est en terminale, c'est ça?
Il est en terminale.
D'accord.
Alors, par exemple, ce que vous disiez hier, pour son, ce que vous disiez tout à l'heure, pour son travail, je suis toujours obligée de lui dire « Ah, t'as un devoir, ah, t'as ça, ah, t'as ça. » Et il fait tout à la dernière minute.
Oui.
Mais ça, c'est dû aux personnes qui ont une TDAH. Ils ont tendance à refouler, repousser les choses.
Oui.
Voilà, tout à fait.
Donc, votre demande, parce que je veux vraiment qu'on puisse répondre à votre question.
Ma question, c'est que par rapport à sa mauvaise fréquentation qu'il a depuis quelques années, il est entouré de camarades. Il s'identifie à ces personnes-là. Et il veut intégrer le groupe en s'habillant comme eux, en se coiffant comme eux.
Ce qui est complètement normal. Hein,
mais est-ce que vous avez une question, Sabrina?
C'est complètement normal. Alors, hein, qu'ils s'identifient comme ça.
Et ma question, en tant que maman, ma question, c'est que moi, j'ai très, très peur et je suis tout le temps derrière son dos.
Non, alors... D'accord. Voilà. Sabrina, déjà, première chose, vous ne restez pas derrière son dos. Vous vous mettez à côté de lui. D'accord? Pas derrière son dos, parce que plus vous allez être derrière son dos et plus lui, il va pas le supporter, et donc il va faire tout le contraire de ce que vous lui demandez. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, vous allez lui dire, vous allez utiliser la stratégie paradoxale. Ça veut dire quoi? Ben écoute, si tu es à l'aise avec et là, par contre, c'est un challenge pour vous, Sabrina. D'accord? Si tu t'entends bien avec ces gens-là, ok, très bien. C'est-à-dire que vous allez autoriser. Parce que là, il est en phase totale, lui, d'opposition.
Ouais.
Donc, si vous dites « Non, je ne veux pas que tu fréquentes, non, j'ai peur, non, ceci », plus vous allez dire ça, plus lui, il va le faire. Mais si vous dites « Ok », vous lui montrez que vous lâchez prise là-dessus, c'est stratégique, bien sûr, hein, d'accord? Que vous lâchez prise là-dessus, et vous allez voir, lui, il n'aura plus de raison de s'opposer, il va trouver autre chose, d'accord? Mais autre chose de plus approprié, d'accord, et qui va plus aller dans votre sens. D'accord, Sabrina, on fait
voilà
comme ça.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire avec le temps qui nous était imparti. On vous fait un gros bisou, puis vous nous rappelez plus tard, Sabrina.
Avec plaisir, Sabrina.
Karima, à bientôt.
À très, très bientôt.
Demain, le docteur Delabo est avec nous.
Belle journée.